Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'onde curieuse. Onde qui se fait micro ou gravitationnelle, mais toujours bonne, on l'espère en tout cas, aujourd'hui sur fréquence 7, puisqu'on va parler du contexte énergétique en France et en Ardèche avec mes deux invités, Philibert Sabaton et Corentin Fichan d'Alec 07. Mais parce que ce sujet nous touche de plein fouet, parce qu'il y a urgence environnementale, économique, parce qu'on est au cœur de l'actualité, ce soir devrait être voté ou pas à l'Assemblée nationale le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Pour toutes ces raisons, je vous propose de commencer cette onde curieuse plus en douceur et de faire des petits pas de côté, de se prendre quelques bouffées d'air qui prennent leur temps. L'actualité qui prend son temps dans le sud Ardèche, donc... C'est maintenant. Alors on commence par l'info la plus importante sans doute, qui aura lieu ce jeudi à 18h. C'est le vernissage de l'exposition « J'irai fleurir vos ondes » au bar Couleur Café à Aubenas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'exposition présente des œuvres créées par l'artiste Elia à l'occasion des 40 ans de Fréquence 7, à partir de vinyles, de cassettes, de disques et d'objets divers collectés auprès de vous, chers auditeurs de la radio. Alors venez voir ce que l'artiste en a fait et pourquoi pas acheter une œuvre, puisqu'elles sont vendues au bénéfice de l'association de Sources Sûres qui gère votre radio préférée. Alors on vous donne rendez-vous ce jeudi 12 janvier à partir de 18h au bar Couleur Café à Aubenas pour le vernissage de l'expo et en présence de l'artiste et des membres de Fréquence 7. Alors ce sera l'occasion de partager aussi un verre et bien sûr, alors le décalage oui ça va un moment mais quand même la tradition il ne faut pas l'oublier complètement puisqu'on va partager aussi la galette des rois qu'on vous offre. Jeudi il y aura de la fève, de l'amour, de l'art, de la musique... Eh ben quoi d'autre? Il faut venir. Alors entre la fève et les vinyles, peut-être irez-vous ce même soir, jeudi 12, à 18h30. Alors oui, je sais, le timing est serré, je vous ai proposé de prendre un peu plus son temps, mais en tout cas pas jeudi. Jeudi 12 à 18h30, à la librairie du Tiers-Temps à Aubenas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y aura la lecture rencontre autour de l'ouvrage « Parole de femme, femme de parole ». C'est un très beau projet qui est né d'une aventure humaine collective initiée par le Secours Populaire Ardèche et la compagnie L'Ardennois. Donc des femmes sont arrivées en France avec pour seul bagage un titre d'exilée ou de migrante. Et du courage, beaucoup de courage. Un atelier s'est constitué à Privas où elles ont révélé leur intimité, leurs racines, leurs souvenirs. Et de cette expérience est né un livre qui regroupe 17 textes poétiques qui est illustré des dessins de l'Ardéchois Pascal Agostini, livre paru chez 7 éditions. Alors jeudi 12 à 18h30 à la librairie du Tiers-Temps d'Aubenas, Marie Véraud et Nadine Demange de la compagnie L'Ardennois liront des extraits de textes en présence de certaines autrices, de l'illustrateur et de l'éditeur Sébastien Gaillet, l'inénarrable Sébastien Gaillet. Donc ça, ce sera donc jeudi 12 à 18h30. On continue avec une autre proposition où l'art puise aussi dans la rencontre avec des migrants. Ce sera vendredi 13 au Centre Le Bourneau avec le docu-concert « Nouveaux voisins ». Alors c'est à partir d'une rencontre dans le centre Emmaüs d'accueil de migrants d'Ivry que l'ex-membre de Baobab, Merlot, s'est fait une spécialité de servir l'image avec sa musique, propose une nouvelle création qu'il a finalisée au 104 à Paris. Alors on y suit la rencontre en chanson entre l'artiste musicien et les habitants éphémères d'un centre de migrants. Ça se passe presque sans mots, et c'est la magie des émotions, de l'humain, de la musique surtout, qui opère. C'est un peu comme lors d'une première rencontre, c'est un regard humain et joyeux sur nos nouveaux voisins. Et ça se passe au Centre Le Bourneau à Aubenas le 13 janvier à 20h45. Et en plus, Fréquence 7 vous offre 2 places pour cette soirée du 13. Il suffit de nous envoyer un petit texto au 06 80 25 65 04. 06 80 25 65 04. Vous nous envoyez un texto, vous nous laissez vos noms et coordonnées et on vous réserve 2 places Évidemment, c'est les premiers, donc c'est les plus rapides. Mon Dieu, encore, je me... c'est pas encore une question de temps. Mais ça y est, c'est maintenant seulement, je vous l'ai promis, on prend son temps, puisque samedi 14 à Mercué à 10h, pour la deuxième marche ouverte au public autour de la thématique « Cheminer à la rencontre du temps long géologique » qui sera animée par la géologue Maryse M. de l'association Clapas. Et c'est l'association Ligne d'Horizon qui mène le projet « Les sentiers du Grand Aubenas » et qui vous invite régulièrement à cheminer dans la ville d'aujourd'hui en faisant justement un petit pas de côté qui soit géologique, culturel, historique et à découvrir 1000 facettes oubliées ou trop souvent délaissées. C'est donc ce samedi 14 janvier à 10h à Mercué, donc ayez de bonnes chaussures. C'est gratuit, mais les réservations sont indispensables et elles se font par mail à contact@ligne, au pluriel, lignedhorizon.org. Plus de renseignements sur leur site internet ou par téléphone au 06 62 33 36 13. Et on termine en rebobinant le temps pour vous dire que ce soir, mardi 10 à 20h30, faites-vous un plaisir. Allez au cinéma en ne sachant pas ce que vous allez voir. C'est le principe des films surprises en avant-première et c'est concocté par l'Association des cinémas d'art et d'essai, donc ce sera forcément du bon. Donc on se laisse aller, ça se passe à la salle de la Vesprade à Tueil. Ce mardi à 20h30, et je précise qu'il y en aura un par mois. C'est les coups de cœur des films surprises, avant-première. Et puis, on va se faire une petite parenthèse musicale avant d'entrer dans le vif du sujet, le chaud, le froid. On se fait une petite parenthèse musicale grâce à Sylvain. Merci Sylvain.
Certains voudraient pouvoir toujours vivre en pagne, partir vivre tranquille à la campagne, courir dans les champs des fleurs dans les cheveux, et nourrir les poulets puis manger leurs œufs. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en slip, habiter le neuf dans une maison en kit, avoir une cheminée et un barbecue, vivre loin des cons et vivre loin des fous. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en string, habiter Paris pour avoir du feeling, traîner dans les bars et être toujours high,
et de pouvoir dire j'habite la butte au caille.
Certains voudraient pouvoir toujours vivre à poil, partir à Bali ou bien au Sénégal, partir au Mali ou bien à Tahiti, vivre au soleil avec le RMI. Moi je veux vivre ici, oh, vivre avec toi. Je veux vivre aujourd'hui. On est bien dans 9-4. Well, on feel alright. Certains voudraient pouvoir rouler en berline, passe dans la rue comme s'il passait un casting, le crédit signé jusqu'en 3044, et à la maison les gosses qui mangent des pâtes. Certains voudraient pouvoir un jour rouler en Porsche, serrer tout ce qui bouge en bas, les mêmes les moches, tout dans la boîte à gants, pas grand chose dans le crâne, il a la voiture et il aura la femme. Certains voudraient toujours rouler en vélo pour sauver les arbres et les petits oiseaux. Certains voudraient avoir une caravane, aller s'installer là-bas sous les platanes. Certains voudraient un jour rouler en 4x4, ceux-là se prennent pour des aristocrates. D'autres voudraient rouler un jour en Merco, ceux-là se prennent carrément pour des macros. Moi je veux vivre ici, vivre avec toi. Oh je veux vivre à Ivry. On est bien dans le 9-4, on est bien au feel alright. Moi je voudrais toujours vivre ici avec toi toute la vie, sans avoir de trop grands besoins, sans avoir vraiment de soucis. Je veux vivre ici et être bien. Je ne veux pas aller à Pékin. Je ne veux pas aller à Paris ni dans l'océan Indien. Pas non plus à Berlin. Moi je veux vivre ici. Oh, vivre avec toi. Je veux vivre aujourd'hui. Oh, oh, oh.
Vous êtes sur Fréquence 7 et on vient d'écouter Merlot 9-4, issu de l'album Chansons d'amour et de haine, paru en 2008. Alors aujourd'hui, je suis avec mes invités Philibert Sabaton et Corentin Fichan d'Alec 07 pour parler de la situation énergétique en France et en Ardèche et voir à quoi il faut s'attendre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par une petite parenthèse historique, un petit décalage, une petite mise en perspective temporelle pour entreapercevoir notamment que notre sensibilité au chaud, au froid n'est pas naturelle mais bien historiquement et socialement construite. Alors j'ai trouvé beaucoup d'infos là-dessus, très intéressantes, dans l'essai de l'historien Olivier Jandot, qui s'appelle « Les délices du feu, l'homme, le chaud et le froid à l'époque moderne ». Alors on va jouer un peu pour se mettre en condition, et Sylvain, qui est à la technique, peut jouer aussi. On parle beaucoup des 19 degrés qu'il faudrait adopter dans sa maison. Alors, est-ce que vous savez d'où vient ces fameux 19 degrés, mais surtout à partir de quand, c'est-à-dire à partir de quelle époque, estime-t-on que c'est la température de confort idéale ?
Bonjour.
Bonjour, oui.
Moi, je leur dis 2022.
2022, ouais.
Je pense que c'est dû à la température de surface de la peau par rapport...
Explication technique.
Non,
alors, à partir de quand ? À partir de quand, à peu près ? À partir de quand on se dit que 19 degrés, c'est la bonne température ?
Moi, je dirais que c'est assez récent.
Ouais, quand on a inventé le chauffage, donc début de... le chauffage, donc début de l'ère industrielle, donc je dirais le charbon, peut-être pétrole, donc je dirais 1920, 1930.
Moi, je dirais encore après, 1970, peut-être 80.
1970, ouais, c'est à peu près ça. C'est à partir de 1970 qu'on se dit que 19 degrés, c'est souhaitable. Parce que quand les questions relatives au chauffage domestique commencent à intéresser les médecins, les architectes, à la fin du 18e siècle, on commence à avoir des préconisations qui oscillent entre 12 et 15 degrés. Et ces 12 et 15 degrés, ça va être préconisé jusque dans les années presque 70, entre 12 et 15 degrés à l'intérieur des maisons. Et bien justement, jusqu'au XXe siècle, comment on fait ? Quelle est la meilleure stratégie pour se tenir au chaud ? À votre avis, est-ce qu'on reste blotti chez soi ? Est-ce qu'on sort ?
C'est faire du bois, je pense.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
On vit au-dessus des animaux.
C'est le mouvement.
On vit au-dessus des animaux, ça c'est une bonne technique, effectivement. Alors, soit on reste chez soi, mais c'est pas ce qui est préconisé d'abord. Louis-Sébastien Mercier, qui est observateur de la vie parisienne au XVIIIe siècle, il nous dit que les stratégies d'économie les meilleures, ça consistait à rester le moins de temps possible chez soi et à passer du temps dans les lieux publics, comme les cafés, qui sont généralement équipés d'un poêle, les bibliothèques, ou même dans les rues, puisque pendant les hivers rigoureux, on faisait des feux publics. Donc on allait dehors quand il faisait très froid, et surtout on ne restait pas chez soi, puisque chez soi, certains médecins nous disaient justement qu'il faisait quelquefois plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur à cause de l'humidité, et notamment des sols en terre battue. Donc on va plutôt à l'extérieur, mais si on reste chez soi, on adopte plusieurs techniques. Sylvain, tu nous as parlé d'une technique, effectivement avec les animaux, on va au-dessus, on met les animaux en bas, et puis à l'étage, on profite de la chaleur des animaux. Ou alors, autre technique aussi, dans son lit, on dort tous ensemble, avec tous les membres de la famille. Et c'est pas que dans le nord de la France, je précise. On est tous... Je viens du nord, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, petite technique. Ou alors, évidemment, c'est les fameuses veillées. Chacun apporte à tour de rôle, les voisins apportent leur bûche. Et puis, on se regroupe dans une même maison. Et c'est l'occasion de faire des rencontres. Et c'est notamment là où se font pas mal de mariages. Voilà.
Notre futur en 2100.
Votre culture, ouais, c'est ça. Parce que ces pratiques sociales, effectivement, ont disparu avec l'apparition du chauffage.
Tout à fait.
Tu nous en parlais, Corentin, à partir des années 60-70. Et saviez-vous qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait seulement 10% des foyers français qui étaient équipés de chauffage? Seulement 10%. Et il a fallu attendre, effectivement, la fin des années 60 ou le début des années 70 pour que le chauffage central devienne la norme. Alors aujourd'hui, donc, ces pratiques ont disparu, mais pas partout, puisque les foyers les plus précaires, on continue d'occuper par exemple une seule pièce dans la maison pour faire des économies d'énergie. Et je rappelle qu'en 2021, il y a encore 12 millions de personnes qui se trouvent en situation, enfin qui se trouvaient en situation de précarité énergétique en France. Et la situation n'est pas faite pour s'améliorer. Alors, Philibert Sabaton, Corentin Fichand, d'Alec 07, merci d'avoir joué d'abord et d'avoir fait ce petit pas de côté pour se rendre compte un petit peu des évolutions qu'il y a eu. Alors, je précise que vous avez écrit sur le sujet de la situation énergétique un papier très complet qui reprend les éléments importants d'un rapport de RTE, le gestionnaire français du transport électrique. Article que, chers auditeurs, vous pouvez trouver sur le site d'internet d'Alec 07. Et donc je m'inspire pas mal de cet article pour cet entretien. Alors, le premier constat, on s'est tous un peu affolés et puis on a vu qu'on a passé Noël sans coupure d'électricité. On a annoncé en plus la semaine dernière que le prix du gaz sur le marché de gros était tombé à son plus bas niveau depuis février 2022, c'est-à-dire avant la guerre en Ukraine. Donc on comprend plus trop. Est-ce que ça veut dire qu'on est tiré d'affaire ?
À court terme, en tout cas pour ce qui est des coupures d'électricité, il semblerait que oui. Du coup, dû aux baisses des consommations des industriels, mais aussi des ménages, et aussi donc à des météos clémentes pour cet hiver 2022-2023. Il semblerait que RTE écarte un peu le risque de coupure pour cet hiver. Après, à long terme, la question est différente.
D'accord. Alors,
pour ce qui est la question du gaz et du prix du gaz, c'est-à-dire que l'envolée du prix du gaz, elle a commencé en 2021 à la sortie, à la reprise post-Covid, donc au démarrage, au redémarrage économique de l'économie mondiale. Et du coup, si vous annoncez un prix bas par rapport à 2022, en fait, les prix avaient déjà augmenté fortement par rapport aux années précédentes.
Le gaz n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour augmenter. Ça a vraiment commencé avant cet événement-là qui est venu s'ajouter à un contexte déjà tendu sur les marchés.
Corentin Fichand qui précise. Je dis Corentin Fichand qui vient de parler. Alors, comment ça nous impacte, nous, concrètement ? On parle de sobriété énergétique. Comment on s'est comporté ? Justement, vous disiez baisse de la consommation. Comment on s'est comporté, nous, en France et nous, en Ardèche ? Est-ce que vous avez des chiffres pour ça ?
Alors, au niveau français, ce qu'ils analysent dans le rapport RTE, c'est qu'ils montrent qu'on a une baisse de quasiment 10% de la consommation, un peu moins, 8,5%, 9%, à partir de septembre et là jusqu'en décembre, corrigé des variations climatiques. Donc, ça veut dire que même s'il fait plus chaud, on a quand même une baisse structurelle de la consommation électrique, qui est d'abord dû à l'industrie, parce que les prix de l'énergie augmentant, il y a des industries qui ont dû diminuer, voire cesser leur production, mais ensuite aussi du résidentiel et du tertiaire. Donc là, les mesures de sobriété qui sont dues, d'une part, certainement aux augmentations d'énergie, c'est plus cher, donc on fait plus attention, et d'autre part, il y a eu quand même un plan de communication assez massif du gouvernement, la température à 19, on en parlait, qui est suivi. J'étais à la communauté de communes de la Draga la semaine dernière, c'est 19 partout. Donc ça a aussi eu des effets sur la consommation d'énergie.
Justement, baisse, donc on limite son chauffage à 19 degrés. Parlons justement des gestes peut-être à adopter pour contrôler sa consommation et faire baisser un petit peu sa facture d'énergie.
Alors on peut parler de ce qui est préconisé dans le rapport RTE. Eux, ils ont une approche vraiment, comment est-ce qu'on diminue la consommation électrique globale, et surtout au moment des pics. Donc c'est eux qui conseillent la température à 19. Ils conseillent aussi, alors je ne pensais pas que ça avait tant d'influence, mais le passage aux éclairages LED. Et ils analysent qu'il y a énormément d'ampoules LED d'ampoules traditionnelles qui sont passées en LED sur les 5 dernières années, et ça a conduit à une baisse importante du pic de consommation du soir à 18h, quand les gens rentrent chez eux, allument la lumière.
D'accord.
Et après, ils préconisent aussi des mesures de décalage de consommation. Donc toujours pareil pour éviter le moment où on consomme le plus. Donc c'est la structure de la consommation électrique au cours d'une journée. Il y a un plateau de 8h à 13h et il y a une pointe de 18h à 20h. Donc il conseille d'éviter de décaler ses usages, donc de ne pas faire tourner ses appareils sur ces plages-là, de faire tourner son chauffe-eau en heure creuse. Voilà pour les quelques éléments principaux. Après, ils en listent d'autres dans leur rapport. Mais la question, je crois, était plus globale, parce que c'était de manière générale, comment faire pour réduire sa consommation à la maison.
Bah, y a pas mille options. La principale, c'est, disons, c'est l'efficacité énergétique. Donc, c'est-à-dire pour mon même confort, je vais isoler ma maison et du coup, je vais réduire mes consommations d'énergie. Mmh. Et après, il y a la voie de la sobriété, c'est-à-dire qu'en fait, là, je joue sur mon confort et c'est mes habitudes de vie. Donc, on a la température du chauffage, mais on a aussi le volume chauffé. Donc on parlait des maisons anciennes, mais en Ardèche on le retrouve pleinement, c'est-à-dire qu'à la base il y avait les étables, il y avait les greniers à foin et il y avait des pièces tampons. Donc en fait on vit, vous l'avez dit aussi, des gens précaires qui vivent dans les mêmes pièces, voilà, c'est des solutions de sobriété, donc souhaité ou un peu subi, voilà.
Donc modifier, c'est modifier aussi surtout ses comportements. Et puis il y a, alors on parle du bouclier tarifaire. Hein, aussi pour non pas baisser sa consommation, mais en tout cas baisser sa facture d'électricité. Le bouclier tarifaire, on en parle, qu'est-ce que c'est, à qui ça s'adresse?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est en février 2022 que le gouvernement a bloqué les prix de l'électricité et du gaz, parce que vu la volatilité des prix de marché, donc il a appliqué le bouclier tarifaire, donc ça veut dire que c'est par des diminutions de taxes et par des financement qu'il absorbe cette augmentation pour pas qu'elle soit retransmise aux particuliers. Donc c'est un bouclier tarifaire qui nous a couvert sur toute l'année, alors seulement pour les tarifs réglementés de vente. Comme il y a eu une ouverture du marché à la concurrence, aussi bien en gaz qu'en électricité, votre offre d'électricité ou de gaz, elle est soit sur un tarif réglementé du fournisseur historique, donc EDF pour l'électricité ou GDF pour, enfin, donc Engie pour le gaz, soit sur un fournisseur alternatif, donc avec une offre de marché. Et là, qui peut soit suivre le prix du marché, soit c'est une offre qui peut être indexée sur le tarif réglementé de vente, soit c'est une offre à prix fixe, il en existe plein. Mais en tout cas, seuls sont protégés les clients qui sont sur le tarif réglementé de vente ou indexés sur ce tarif réglementé de vente.
D'accord.
Et ces clients, on parle de ménages ou de petits tertiaires, de locaux tertiaires, de petits tertiaires, voilà, pour des puissances inférieures à 36 kVA. Donc voilà, c'est des petits consommateurs d'énergie aussi, quoi, des ménages surtout.
D'accord, qui allons bénéficier donc de ce bouclier tarifaire.
Exactement.
Ok. Alors pour prendre un petit peu de recul, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Quel est le rapport entre le prix du gaz et celui de l'électricité? Parce que là, on parle, enfin vous disiez, hein, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour que les prix du gaz s'enflamment. Sans jeu de mots. Mais il n'empêche, on voit quand même qu'il y a eu une augmentation du prix de l'électricité. Alors quoi? L'électricité est indexée sur le prix du gaz?
On pourrait dire ça facilement, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut bien comprendre qu'on est sur un marché européen d'électricité, donc avec une demande et une production. Donc on a ce qu'on appelle les unités de production d'électricité, donc qui sont renouvelables, éolien, photovoltaïque, hydraulique, du nucléaire et fossile, donc qui peuvent être charbon, gaz, voilà. Et en fait, ces unités de production, elles ont tous des coûts de rentabilité qui sont variables, disons. Donc par exemple, le renouvelable, une fois que c'est installé, ben, ça produit quand le vent souffle, le soleil brille, ça ne coûte pas grand-chose. Donc c'est zéro. Le nucléaire, on va être à 50, donc 0 euros du mégawattheure. Donc ça, c'est l'unité. Donc c'est un marché de gros, donc on parle en mégawattheure et pas en kilowattheure comme pour les ménages. On va être à 50 euros du mégawattheure pour le nucléaire. Et le gaz, ben, du coup, il va y avoir une part variable, c'est-à-dire le prix du gaz en lui-même. Ben, combien on l'achète pour produire l'électricité? On le fait passer dans une machine, il nous donne de l'électricité. Donc ça, c'est un peu la première chose à savoir. Ensuite, il faut savoir que l'électricité ne stocke pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on est passé sur un marché européen. Du coup, en fait, pour être sûr d'avoir toujours l'électricité au bon moment, c'est-à-dire qu'il y a des hivers où la France a exporté énormément d'électricité, mais aussi on importe beaucoup d'électricité. Donc cette année, on a importé beaucoup d'électricité au charbon venant d'Allemagne.
Ou au gaz.
D'accord. Donc aujourd'hui, si je rebondis sur ce que vous dites, la France n'est pas autonome. On dépend énergétiquement du charbon et du gaz.
Ça va être variable au cours d'une journée. Donc en fait, là, il y a des super logiciels de RTE qui permettent de regarder vraiment, ou même de voir exactement à quel moment on fournit ou à quel moment ils nous donnent. Donc voilà, c'est souvent, ça s'équilibre. Mais à des moments, effectivement, on a pris du charbon et du gaz et de l'électricité venant d'Allemagne, faite à partir de charbon et de gaz allemand.
Ouais. Ouais, il y a deux échelles. Il y a l'échelle, par exemple, journalière, où on va couvrir avec la production française quasiment toute la journée, mais il va y avoir une pointe, donc par exemple la pointe 18h-20h quand les gens rentrent chez eux, où on va avoir besoin d'électricité allemande. D'accord. Et après, au global, sur une année, la France, elle était traditionnellement exportatrice d'électricité jusqu'en 2021. Mais là, c'est aussi pour ça qu'on a eu des problèmes, enfin un risque de coupure, c'est qu'il y a eu des problèmes de maintenance sur le parc nucléaire français, des maintenances décalées à cause du Covid, des maintenances décennales pour prolonger les centrales de 40 à 50 ans, et un problème de corrosion sous contrainte qui a été détecté. Et donc, on a eu une faible disponibilité du nucléaire là, sur l'année 2022, ce qui fait que cette année 2022, on a été importateur d'électricité. On avait même un partenariat avec l'Allemagne où on importait du gaz par nos terminaux méthaniers. On fournissait l'Allemagne en gaz, qui n'en avait plus à cause de diminution des approvisionnements russes. Et en échange, l'Allemagne nous produisait de l'électricité avec ce gaz russe.
Mmh. Donc là, vous soulevez effectivement un problème qu'on a connu ici aussi dans la région, avec les problèmes de corrosion, notamment dans les centrales nucléaires, dans certaines centrales nucléaires françaises. C'est-à-dire que l'état du parc nucléaire français n'est pas très bon.
Ben il est, je pense qu'on n'a pas les capacités techniques pour répondre. Après voilà, c'est certes, il est vieillissant en fait. Donc ça, on peut pas le nier. Et dans la plupart des scénarios de transition qui nous amènent en 2050, donc des scénarios de transition énergétique, en fait, il y a certains scénarios où on garde notre parc vieillissant, ils sont très risqués en fait. Effectivement, ils présentent des risques. Il y a un enjeu à changer. Et c'est pour ça qu'aussi, ben, le gouvernement Macron, il a lancé ce fameux plan nucléaire avec la construction de 6 EPR. Voilà. Donc effectivement, on a un parc vieillissant et il faut faire des choses, quoi.
Juste une petite parenthèse, parce qu'on n'avait pas fini l'explication sur le prix de l'électricité indexée sur le prix du gaz.
Je te laisse. Donc quand je disais que, voilà, les différentes unités de production ont des coûts variables, et en fait, le prix de l'électricité est indexé sur le coût de production de la dernière centrale retenue pour satisfaire les besoins de consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, prenons le cas d'une journée ensoleillée avec du vent. Au début, on n'a pas beaucoup de consommation. Du coup, le photovoltaïque et l'éolien va suffire. Mm-hmm. Donc là, on va payer son électricité à pas cher, proche de 0 du mégawattheure. Mais au fur et à mesure où on augmente les besoins, parce que c'est la nuit, il fait froid, il y en arrive vers 18 heures, on va avoir besoin du gaz, en fait, pour faire de l'électricité. Et du coup, là, en fait, le prix de l'électricité va s'adapter au prix. Le prix de l'électricité sur le marché de gros va être indexé sur le prix de l'électricité faite par du gaz en fait. Et du coup, D'accord. C'est là que ça augmente et ça augmente pour tout le monde. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, même s'il y a une part qui est produite par du nucléaire ou du photovoltaïque, en fait, tout le monde est à ce prix le plus élevé.
On s'indexe sur la dernière.
Exactement. Et c'est pour ça qu'une des solutions pour financer le bouclier tarifaire, en fait, c'est de limiter ce plafond à 180 euros du mégawattheure. C'est-à-dire que même si l'énergie coûte plus cher, et ben en fait les unités de production nucléaire ou photovoltaïque ne pourront pas gagner, ou éolien renouvelable ne pourront pas gagner plus que 180 euros du mégawattheure, parce qu'on sait que ça leur coûte moins cher de produire de l'électricité. Je sais pas si vous suivez là.
Oui oui. Donc on comprend que finalement c'est indexé sur le gaz parce que quelquefois le gaz arrive en dernier pour alimenter la production énergétique française et que le gaz est plus cher, donc toute l'électricité suit, la facture d'électricité suit voilà. Cette dernière.
Exactement.
Et en fait, c'est très souvent que le gaz finit la production électrique. En fait, là, si on se connecte sur RTE, là, c'est Eco 2 Mix, on regarde, il y a à peu près 60% de l'électricité qui est nucléaire. Selon s'il y a du soleil ou du vent, il y a une part variable qui est renouvelable. Il y a 10% qui est hydraulique, et en fait, il y a au moins 10% qui est du gaz, quoi. Et quand on regarde au cours de l'année, il y a toujours un peu de gaz, parce que comme c'est extrêmement pilotable, on le démarre un peu quand on veut, et on peut produire l'électricité au fur et à mesure de la demande. Donc c'est pour ça que l'électricité est très fortement corrélée au prix du gaz.
Et si on prend un petit peu de hauteur, quelle perspective on a sur notre parc, quelles sont les perspectives sur notre mix énergétique? En France. Là, aujourd'hui, on est vraiment... Donc, la part du nucléaire dans l'énergie représente à peu près
60%
d'électricité. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler qu'en France, on est un pays qui consomme 60% d'énergie fossile. Donc, il y a 40% d'électricité. Et dans les 40% d'électricité, on a 60% de nucléaire.
D'accord. Donc, les énergies renouvelables, où en est-on? Est-ce qu'on a suffisamment anticipé? Je pense que la réponse est non au vu du projet de loi qui va être discuté.
En fait, on a de nombreux de scénarios de transition, en fait, là, donc, dont j'ai envie de citer RTE, l'ADEME, Negawatt, il y a le Chief Project. Et donc, Negawatt, qui c'était un peu les pionniers en termes de scénario de transition sur une transition écologique, énergétique, sans fossiles et sans nucléaire. Et donc, effectivement, quand on regarde en fait tous ces scénarios, on voit que la France, elle est en retard sur le développement des énergies renouvelables, en retard sur donc, que ce soit photovoltaïque ou éolien maritime, éolien au sol. Si on regarde les scénarios RTE qui, eux, considèrent le nucléaire comme solution, on est en retard aussi. Il faut falloir qu'on se presse sur le développement du nucléaire si on veut pouvoir remplacer nos centrales vieillissantes et garder et avoir un mix énergétique électrique qui soit très décarboné. Donc effectivement, oui, il y a urgence en fait à mobiliser des moyens de production d'électricité décarbonée, surtout en fait si on veut supprimer nos moyens de production fossiles en fait, si on veut diminuer fortement la consommation d'énergie fossile, parce qu'il faut le rappeler, c'est 60% de notre consommation en France en fait. Et en Ardèche, on est sur des ordres de grandeur similaires, on est à 60% aussi à peu près, donc
60%, oui, vous avez les chiffres précisément là pour l'Ardèche sur la consommation.
On consomme à peu près, en Ardèche, on va être à 3600, on doit être à 4200 kWh d'énergie venant du gaz et du pétrole, pour 8000, à peu près, dans ces ordres-là.
Pour 8000
À peu près, ouais, 4200 pour 8 kWh en tout. 8000 gigawattheures d'énergie, excusez-moi.
D'accord. Alors, on parlait, je fais un petit retour en arrière, mais on parlait du coup de l'électricité indexée sur le prix du gaz. Est-ce qu'on ne pourrait pas découpler le prix du gaz et l'électricité?
Alors,
Il
y a quelque chose qui a un peu fait l'actualité là, cet hiver, c'est la solution ibérique. Parce qu'en fait, l'Espagne et le Portugal, ils sont très peu connectés aux gazoducs qui viennent de l'Est et de la Russie. Mmh. Et donc, eux, ils trouvaient ça assez injuste de subir les conséquences d'une envolée du prix du gaz, alors qu'ils en utilisent très très peu dans leur mix énergétique. Et donc, ils ont eu une dérogation de la
commune. Ils utilisent du gaz, mais leur gaz, oui, il ne provient pas en fait de Russie, il provient exclusivement de méthaniers, donc d'arrivée des États-Unis par bateau et par l'Arabie Saoudite, et aussi de gazoducs qui viennent d'Algérie en fait. Mmh. Donc, ils n'ont pas le même approvisionnement, et du coup, le gaz, c'est des marchés longs en fait, donc, parce qu'il faut construire des grosses infrastructures, et du coup, ils n'ont pas subi les mêmes augmentations que nous, on a pu avoir dû à la concurrence qu'on a avec la Chine, ou bien le contexte de crise qu'on a avec la Russie.
D'accord. Oui, c'est vrai que c'est bien, on n'a pas précisé ça, mais c'est bien de le rappeler qu'on est approvisionné en gaz de deux grandes manières, soit par des gazoducs, donc il faut qu'il y ait des tuyaux qui viennent, donc depuis la Russie, depuis l'Algérie, depuis peut-être l'Azerbaïdjan, soit par des terminaux méthaniers, donc en fait le gaz il est mis sous forme liquide et il est transporté par bateau. Donc là il peut venir du Qatar, des États-Unis, les deux principaux.
Les principaux, c'est ça.
Donc l'Espagne et le Portugal.
L'Espagne et le Portugal, eux, ils utilisent très faiblement le gaz qui provient de Russie. Et donc, ils ont demandé à la Commission européenne d'avoir une dérogation et ils ont pu plafonner le prix du gaz sur leur marché. Alors, par un mécanisme que je n'ai pas totalement compris, mais en tout cas, vu qu'ils ont pu plafonner ce prix du gaz, ça a plafonné le prix de leur électricité produite à partir du gaz. Et donc, ils ont eu une électricité moins chère. Voilà, ils ont eu cette exception-là. Donc aujourd'hui, en Europe, se pose la question de la réforme de ce marché de l'électricité. Pourquoi on en est là? Pourquoi la centrale du dernier appelé? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une moyenne? Il y a d'autres options qui sont sur la table et c'est discuté en ce moment.
C'est discuté en ce moment, oui. Parce que pourquoi? Il faut rappeler qu'il y a un marché concurrentiel qui a été ouvert justement par l'Europe en 2011, si je me rappelle.
C'est encore antérieur à... En fait, ça a été progressif, ça a été d'abord les grands clients, et puis finalement, ça a fini par les ménages. Il y a eu plusieurs phases, en fait, d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, mais des dernières informations que j'ai regardées, ça daterait même de fin des années 90, quoi. C'est assez ancien.
C'était d'ouvrir le marché, en fait, ouvrir le marché à la concurrence sur un marché européen, l'électricité, donc... Il y a des avantages, c'est-à-dire qu'on soit tous connectés aussi à un réseau européen. Donc, par exemple, cet hiver, ça se présente comme un avantage, parce que voilà, il y a toujours des risques. Mais ils ont décidé de plutôt se passer sur un marché concurrentiel, mais aussi dans un but de développer des productions d'énergie renouvelable, en fait, très décentralisées. Donc, c'était ça l'idée.
Un autre argument qui était avancé, que j'ai lu là ce matin, c'était ouvrir la concurrence pour avoir des fournisseurs d'énergie qui proposent des solutions innovantes. de maîtrise de l'énergie. Donc voilà, ils se disent, ça va foisonner d'idées dans ce marché concurrentiel. Et ils présentaient même ça comme un respect des Grenelles de l'environnement, etc. Bon, bah, il faut faire des diminutions de consommation d'énergie, donc on va mettre sur le marché des personnes qui vont avoir des offres innovantes pour à telle heure je consomme moins parce que l'électricité est plus chère, etc. Donc ils ont eu cette volonté-là. Il se trouve qu'en France, ça n'a pas vraiment marché, l'ouverture à la concurrence, parce qu'en fait, l'électricité, elle est principalement produite par EDF, qui a amorti ses installations nucléaires et qui donc propose une électricité à bas coût. Donc les fournisseurs, ils n'arrivaient pas à s'approvisionner à aussi bas coût qu'EDF. Et donc c'est ça, en 2010, où il y a eu l'ouverture, enfin la vente forcée d'une partie de l'électricité nucléaire d'EDF à la concurrence. Donc en fait, pour améliorer le fonctionnement de la concurrence, on pourrait dire, enfin pour permettre que les fournisseurs alternatifs aient accès à une partie de cette électricité pas chère nucléaire d'EDF, EDF a été obligé de vendre 100 TWh, un quart.
100 TWh, et après c'est passé à 120 avec le bloquet tarifaire, avec les mesures sur le bloquet tarifaire, où EDF était obligé d'augmenter la part d'électricité qu'elle devait vendre pas cher à ses concurrents.
Et ça, qui représente combien? Parce que là, vous donnez des chiffres.
120.
Je crois que c'est un quart de la production d'EDF.
C'est un quart de la production d'EDF, à peu près, approximativement. Ouais. 120 TWh, je crois que c'est ça. C'est ça, oui. C'est 120 TWh. Mais du coup, ben, en fait, ça a créé des mécanismes de marché où, en fait, on s'est pas retrouvé forcément avec des producteurs d'énergie renouvelable, mais en fait juste avec des gens qui rachètent l'électricité à EDF et la revendent derrière plus cher, ou selon le cours du marché, comme ça les arrange, quoi. Donc en fait, avec des courtiers en affaires, j'ai envie de dire. Donc c'était un peu la limite et le défaut de ce principe-là.
Et aujourd'hui, c'est un peu en question, ça, parce que sur les sujets énergétiques comme ça, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un grand acteur qui peut prévoir l'investissement des infrastructures futures plutôt qu'un acteur qui est obligé de revendre à perte sa production à d'autres fournisseurs qui marchent dessus? Donc c'est un peu tout ce fonctionnement-là aussi qui est en question.
C'est ça, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, c'est-à-dire éventuellement le service public où on paye vraiment pour ce qu'on... au prorata et pas pour financer des marchés.
Ça pose des questions sur les choix de société aussi, sur ce qu'on veut en Europe et en France. Quel choix de société est-ce que...
Et je tiens aussi à dire que les systèmes énergétiques, c'est quelque chose de... sur les temps longs, en fait. Donc quand on parle de transition énergétique ou écologique, on parle de planification, en fait. On peut pas laisser ça comme ça, au gré des marchés, en fait. Il faut vraiment planifier sur le temps long.
Planifier sur le temps long, on va peut-être rester là-dessus. Pour boucler avec ce qu'on disait en entrée d'émission, on aura plein de choses encore à discuter. Malheureusement, l'onde curieuse, c'est fini. merci beaucoup à vous deux, Philibert Sabaton et Corentin Fichan. Merci à vous d'être venus. On se refera peut-être encore des émissions, parce que sur ces questions d'énergie, il y a beaucoup de questions. Ça prend du temps d'expliquer un petit peu tout ça.
Avec plaisir.
Avec plaisir, merci.
Merci à vous. L'onde curieuse, c'est terminé, mais les émissions continuent sur fréquence 7 avec le Telex aujourd'hui à 15h. La rediffusion de l'onde curieuse, alors si vous voulez vous la refaire parce que vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas tout entendu, l'onde curieuse à 17h. Et puis à 18h, Polémix et la voix off avec l'épisode 8 de Au secours. Et c'est l'épisode où Clément de la Rabouilleuse se pose la question: quelle agriculture? À 18h, donc Polémix et la voix off. Et à 21h, Metal Zone pour une rediffusion de l'interview de Loud Blast. Voilà, nous on se retrouve jeudi pour une onde curieuse avec Quentin, mon binôme. Merci à vous et merci Sylvain en technique.